Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, je reçois Fabrice d'Almeida.
Bonjour.
Un nouveau portrait. Dans la suite de nos portraits d'espions, après Fritz Kolbe, après l'affaire Cicéron, eh bien nous allons aujourd'hui nous pencher sur l'affaire Profumo, John Profumo. Première question, Fabrice, qui était ce personnage ?
Profumo, c'est un personnage de la haute société britannique. C'est une famille d'origine italienne, mais c'est la cinquième génération, disons, très bien installée, qui a accédé à la gentry, donc c'est, vous savez, cette aristocratie provinciale britannique. Et donc, il a fait un beau mariage et il a décidé d'entrer en politique. Il avait un grand-père qui, d'ailleurs, avait occupé des charges assez hautes. Et donc, lui-même va faire une belle carrière ministérielle. Il est né en 1915 et après avoir travaillé comme secrétaire, sous-secrétaire d'État aux colonies, il finit en 1960, par être secrétaire d'État à la guerre, donc le ministre de la Défense britannique, et il va occuper ses fonctions jusqu'à sa démission. Et après son scandale, puisqu'on va y venir, après sa démission, eh bien, il va mener une existence assez discrète, mais qui va lui valoir véritablement un retour en grâce, puisqu'il sera finalement reçu par la reine, distingué par la reine avec une médaille. Et au fond, pourquoi ce retour en grâce ? Eh bien, parce qu'il aura décidé de se dédier comme bénévole à de l'action sociale et humanitaire dans les quartiers déshérités de la banlieue de Londres.
Il y a la grandeur de John Profumo, la décadence, puis ensuite une renaissance.
Oui, on pourrait dire ça, qu'il y a une espèce de côté la roue tourne, celui à qui tout réussissait. C'est un bel homme hein, au début des années 60. On ne le dit pas souvent en politique, mais ça joue. C'est un bel homme assez séduisant qui a des succès auprès d'actrices. Et donc, on va arriver finalement à cause peut-être de ce penchant à ce qui va déclencher un des plus brutaux scandales de la politique anglaise des années 60. On considère que le cas Profumo est celui qui fait perdre les élections aux conservateurs et qui va permettre, après 13 ans d'absence, au Parti travailliste de revenir au pouvoir.
Alors, ne faisons pas attendre nos auditeurs. Qu'est-ce que ce scandale John Profumo et pourquoi éclate-t-il ?
Alors, on va commencer par le caisse et ensuite on reviendra au pourquoi, parce que c'est deux questions séparées. Le scandale, à la base, c'est tout simple. C'est Profumo qui a rencontré une jeune femme, mannequin, qui essaye de rentrer dans le cinéma, qui essaye de tourner des films, qui fait un peu partie de ce qu'on pourrait appeler le milieu des demi-mondaines londoniennes du tout début des années 60. Et donc, cette jeune femme qu'il a rencontrée en janvier 1961 s'appelle Christine Keller et elle vit plus ou moins avec un certain Monsieur Ward, qui a une autre compagne, mais qui visiblement joue un peu le rôle d'entremetteur, qui va être d'ailleurs poursuivi pour prostitution. Et un des aspects du scandale, c'est que, étant poursuivi, risquant d'être condamné, il va se suicider. Et deuxième chose, toujours dans cette affaire un petit peu de mœurs, de poursuite, eh bien, cette Christine Keller a d'autres amants. Deux amants d'origine indienne qui sont très dans les milieux boîtes de nuit londoniennes, qui vont finir par se bagarrer, se tirer dessus, s'envoyer des coups de couteau, et un autre qui, là, nous rapproche un petit peu de cette question de l'espionnage, qui est celle qui nous intéresse un petit peu plus, un autre amant qui s'appelle Ivanov et qui, en fait, est l'attaché militaire soviétique à l'ambassade de Londres. Et donc, avec cette espèce de scandale de mœurs, va petit à petit venir pour la presse à scandale, pour la presse populaire, un intérêt pour Christine Keller et Christine Keller elle-même, gênée par les poursuites engagées contre Ward, gênée par le procès fait contre Gordon, un de ces deux Indiens qu'elle fréquentait, eh bien, va révéler à des proches et puis à des journalistes qu'elle a une liaison avec un personnage important du gouvernement. Et la presse va chercher un petit peu, le nom de Profumo va sortir, mais Profumo va nier. Pourquoi ? D'abord parce que le Parti conservateur considère que c'est dangereux pour eux, à quelques mois des élections, à quelques années éventuellement des élections, eh bien de mettre ce scandale en avant. Et surtout, ils pensent que l'affaire va s'éteindre d'elle-même. C'est-à-dire qu'une fois que les poursuites judiciaires, que les procès, etc. sont finis, normalement, eh bien la presse devrait se lasser. Voilà, ça c'est le point de départ de l'affaire.
À vous entendre, il ne s'agit qu'une question de mœurs.
Simple question de mœurs, mais évidemment, il y a un député travailliste qui va se saisir de l'affaire pour dire quoi ? Le ministre de la Défense, le ministre de la Guerre, partagerait une maîtresse avec un conseiller militaire soviétique. Et vous savez que le terme conseiller militaire, c'est le mot qu'on utilise généralement pour le spécialiste du renseignement d'une ambassade. Donc, il y a le soupçon que Profumo donne des informations confidentielles à l'Union soviétique. Alors, pourquoi cette paranoïa ? Pour une raison simple, c'est qu'au tout début des années 60, l'affaire intervient juste après la crise des missiles de Cuba. On est tout juste dans cette espèce de politique où on pense qu'on rentre un petit peu dans une détente, hein, dans une guerre froide un peu moins pleine de risques, mais les services de renseignement, les services d'espionnage fonctionnent à plein. Or, en Angleterre, il faut se souvenir qu'il y a eu ce réseau avec deux hommes, hein, qui ont joué un rôle tout à fait important. Guy Burgess et Donald MacLean, deux Oxbridgiens, vous savez, ces fonctionnaires bien diplômés de Oxford ou de Cambridge, bien insérés dans les milieux du renseignement et dans les milieux diplomatiques, qui ont agi pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui se sont rapprochés des soviétiques, qui sont devenus communistes par conviction et qui ont donc trahi l'Angleterre, donné des informations à l'Union soviétique, et au moment où ils allaient être découverts, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris la fuite et ils sont passés directement en Union soviétique. Il y a un autre diplomate, un an avant, enfin en 1961, George Blake, qui, lui, a été pris sur le fait et a été condamné à 42 ans de prison pour espionnage envers l'Union soviétique. Et il y a le soupçon que ce réseau de haute personnalité, de gens bien nés, parce que dans le cas de Burgess et de MacLean, il y a cette idée-là, hein, c'est que c'est un peu les enfants chéris de la Grande-Bretagne, hein, ces élites qui trahissent. Et il y a le soupçon qu'il y a un troisième homme. On ne sait pas qui c'est, mais dans les milieux diplomatiques, dans les milieux du renseignement, on pense qu'il y a une dernière taupe, qu'on n'a pas réussi à éradiquer. Et au fond, ce qui jette davantage l'intérêt sur Profumo, bien qu'on pense qu'il soit hors de cause, la plupart des gens le connaissent bien, n'ont pas le sentiment qu'il puisse être ce troisième homme, eh bien c'est cette espèce de pièce manquante qu'on découvrira quelques années plus tard, puisque ce sera Kim Philby, et là on aura enfin la preuve que tout le réseau a bien été éliminé. Mais en ce moment-là, au début de l'année 63, personne n'est véritablement au courant, personne ne sait qui est le troisième homme, et donc les soupçons partent tous azimuts, et c'est ce qui explique au fond, l'intérêt particulier qu'on va avoir pour cette affaire est le sentiment qu'on est au cœur de la capacité d'espionnage et d'intrigue des soviétiques. Et puis quand même, dernier fait, si Christine Keller partage un amant avec le conseiller militaire soviétique, n'y a-t-il pas le risque qu'à terme, à très court terme, l'Union soviétique se serve de cette affaire de mœurs pour exercer un chantage sur le ministre de la Défense ? C'est quand même pas non plus une affaire totalement anodine.
Il y a donc ce scandale politique. Comment réagit sur le moment l'URSS ? Est-ce qu'il y a des déclarations officielles ? Comment John Profumo lui-même réagit face à cela ? Est-ce qu'il pense immédiatement à la démission ?
Profumo, non, au départ, il essaye de... Bon, alors, l'URSS, évidemment, joue profil bas. Elle a un conseiller militaire qui est impliqué, qui va être appelé. Elle essaye de ne pas apparaître parce que, justement, elle-même a ses réseaux à protéger. Profumo, de son côté, lui, il croit que ça va s'éteindre, mais malheureusement, l'affaire de presse continue. Et au début, il nie parce que il est marié. Et donc, il nie pour, en quelque sorte, ménager son image familiale. Mais malheureusement, pressé par les événements, il va avouer et sa femme va lui conseiller de tout révéler. Et à ce moment-là, ça va aller assez vite. Il va remettre sa démission en juin 1963, il quitte le gouvernement. Mais au fond, ce que ça nous montre, j'allais dire, cette espèce de climat où on hésite à révéler, où on lui conseille de nier, les dirigeants du Parti conservateur lui conseillent de nier, lui disent non, surtout, il ne faut pas lâcher. Et au fond, une fois qu'il craque, parce qu'il craque un peu sous la pression, sous l'image qui vient des médias, donc c'est important cette dimension-là aussi dans cette affaire, c'est le moment où, au fond, la presse britannique se rend compte de l'impact qu'elle peut avoir sur la vie des hommes publics, et à un moment où la question des mœurs est tout à fait importante. Parce que si on veut bien revoir ce début des années 60, hein, c'est le grand moment où c'est les derniers feux, j'allais dire, de la rigueur morale britannique. 1960, c'est quoi ? Rappelez-vous, c'est le fameux procès de l'amende d'Eddie Chatterley. Vous vous souvenez, le livre de D.H. Lawrence, publié dans l'entre-deux-guerres, grand succès librairie. Or, il se trouve qu'en 1960, il y a le projet de publier l'amende d'Eddie Chatterley en édition de poche. Et la couronne, donc le procureur, va attaquer les éditeurs pour interdire cette publication. Et il a cette phrase extraordinaire, hein, le procureur, the crown, hein, le procureur royal, il a cette phrase extraordinaire, il dit « Is this a book you would like your wife or servants to read ?» Est-ce que c'est un livre que vous voudriez voir lu par votre femme et vos serviteurs? On connaît l'intrigue de l'amant d'Eddie Chatterley. Vous savez, c'est la femme avec le jardinier. Mais en même temps, ça vous montre l'état intellectuel, psychique dans lequel on est à l'époque. On a encore l'idée qu'il y a les serviteurs qui auraient un autre univers culturel et qu'il ne faudrait pas, en quelque sorte, qu'ils découvrent cette espèce de péché possible avec l'aristocratie. Et puis, quand même, début des années 60, je vous rappelle, l'Angleterre est encore un pays où, par exemple, l'homosexualité est un crime. Début des années 60, on n'a pas encore les premiers albums des Beatles. Vous voyez ce que je veux dire? On est juste à la veille de ce qui va être vraiment le retournement culturel.
Donc, il y a un scandale politique, il y a un scandale de mœurs. Mais finalement, il n'y a aucune affaire. Il n'y a pas d'affaire John Profumo.
Effectivement, on pourrait le voir au fond comme une absence totale, en quelque sorte, une de ces crises médiatiques qui, à intervalles réguliers, depuis le début du XXe siècle, secouent la société britannique et au-delà les sociétés européennes. En même temps, ça montre bien l'état de rigidité dans lequel on est et ça montre bien aussi en même temps comment les partis politiques s'engouffrent au fond dans les possibilités qu'ouvrent les faits divers, couvre les scandales pour essayer finalement de renverser la balance électorale. Parce que finalement, qu'est-ce qui va se passer? On avait un parti conservateur qui fonctionnait plutôt bien. Et on avait une gauche qui avait des difficultés, de grosses difficultés tout au long des années 50 à se restructurer. Et c'est cette affaire qui va lui donner le point d'accroche pour dire non, ça suffit, ça fait 13 ans, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et vous voyez en plus, en quelque sorte, ils sont corrompus, ils sont véreux. Et donc voilà, c'est autour de cette non-affaire finalement que le Parti travailliste réussit à se redresser, à se reconfirmer et qu'il va emporter de peu les élections devant les conservateurs et donc garantir finalement une nouvelle phase de gouvernement avec relance, avec essai de nouvelles conquêtes sociales, mais dont on aura par la suite le sentiment que ça va être la création de la dette britannique.
Pas d'espion, vraie maîtresse. Comment se déroule la réhabilitation de John Profumo?
Alors ça, c'est peut-être l'aspect le plus intéressant. C'est que au fond, à sa mort, il est mort au mois de mars 2006. Au fond, quand on regarde toutes les nécrologies qui lui ont été consacrées, toutes les notices dans la presse, dans le Guardian, dans le Time, on se rend compte qu'il fait l'objet d'un grand respect. C'est presque paradoxal. On pourrait presque penser qu'il y a là une espèce de volonté de la presse britannique de se réhabiliter et d'essayer de
faire son mea culpa.
Exactement. Et essayer de laver la figure de celui qu'elle avait en quelque sorte détruit au début des années 60, au moment véritablement où s'affirmait quelque chose comme un quatrième pouvoir de la presse anglo-saxonne.
Vous qui êtes spécialiste des comportements, des sociétés, c'est vraiment une chose nouvelle que cette question de presse vis-à-vis de l'opinion au XXe siècle?
Non, évidemment, il y a eu d'autres scandales. On a les scandales du XIXe siècle. On a déjà aux États-Unis, à la fin du XIXe siècle, autour de Teddy Roosevelt, des changements. Mais on a l'impression que ce qui est ici frappant, c'est que c'est la dimension du fait divers, c'est que c'est le passage sur la scène médiatique et le passage entre la scène médiatique et la scène politique qui crée un type de problème spécifique et qui, au fond, permet de peser sur les électeurs, non pas tant en termes de doctrine, en termes de programmation politique, mais bien en termes de représentation, en termes d'image. Et c'est peut-être ça le sentiment qu'on a dans les années 60, le sentiment naissant, puisque rappelez-vous, on est au moment de la présidence Kennedy. Donc c'est un peu cette impression que l'on a d'une nouvelle image de la politique qui est en train d'émerger et de s'implanter dans le monde occidental.
Eh bien, Fabrice d'Almeida, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et je vous donne rendez-vous pour un nouveau portrait. À très bientôt.